D'abord, nous trouvons que les serviteurs les plus remarquables, à en juger d'ici, ont des occupations et une condition contraires à ce que nous avions pensé. Qui sont-ils? Ce sont ceux qu'on achète et qu'on acquiert aussi par un marché. Nous pouvons, sans crainte d'être contredits, les nommer esclaves. Ils n'ont pas la moindre prétention à la science royale. Non, en vérité. Mais quoi? Tous ceux des hommes libres qui se placent de leur propre gré dans la classe des serviteurs, avec ceux que nous venons de dire et qui se distribuent et se communiquent entre eux les produits de l'agriculture et les autres arts, les uns s'établissant sur la place publique, les autres allant de ville en ville, par terre et par mer, échangeant les monnaies entre elles ou contre d'autres objets. Ces hommes, enfin, que nous nommons changeurs, marchands, patrons de navires et trafiquants, réclamons-ils rien dans la science politique? Tout au plus peut-être dans la science des marchands, et ces mercenaires, ces hommes à gages que nous voyons empressés de servir tout le monde, nous ne trouverons jamais qu'ils réclament une part dans la science royale. Comment le pourraient-ils faire? Mais ce sera peut-être ceux qui remplissent pour nous certaines fonctions. Quelles fonctions et quels hommes veux-tu dire? Ceux parmi lesquels se trouvent les héros et ces hommes habiles dans la rédaction des actes, et qui nous prêtent si souvent leur ministère et certains autres, trop exercés à remplir beaucoup d'autres fonctions relatives aux magistratures. Que dirons-nous d'eux à leur tour? Comme tu viens de le dire un instant, ce sont des serviteurs, mais ils n'ont pas les chefs mêmes de l'État. Cependant, je ne rêvais pas, ce me semble, quand j'ai dit que c'était de quelque rang de cette classe que sortiraient ceux qui réclameraient le plus haut une part dans la science politique. Et pourtant, il peut paraître fort étrange de les chercher dans la condition des serviteurs. Tout à fait. Approchons donc encore davantage de ceux que nous n'avons pas encore examinés. Voici d'abord ceux qui, s'occupant de la divination, possèdent une partie de la science du serviteur, car on les regarde comme les interprètes des dieux auprès des hommes. Oui, il y a encore l'espèce des prêtres, qui selon l'opinion vulgaire s'est présenté aux dieux, dans les sacrifices de la manière qui leur est agréable, les dons que nous offrons, et leur demander pour nous, dans leurs prières, la possession des biens. Or, ce sont bien là deux fonctions qui appartiennent à la science du serviteur. Cela me paraît évident. Il me semble que nous avons enfin atteint une trace que nous pouvons poursuivre. Car l'ordre des prêtres et celui des devins ont une haute idée d'eux-mêmes et sont en grande vénération, à cause de la nature auguste de leurs fonctions. À ce point que dans l'Égypte, le trône ne peut être occupé par un roi étranger à l'ordre sacerdotal. Et si par hasard c'est un homme originairement sorti d'une autre classe et qui a été élevé par la violence, il faut qu'il finisse par se faire recevoir dans cet ordre. Parmi les Grecs eux-mêmes, on trouvera en plus d'un lieu que ce sont les magistrats les plus considérables qui sont chargés d'accomplir les plus importants de ces sacrifices. Et ce n'est pas chez vous qu'on trouve les exemples les moins remarquables de ce que j'avance. Car on dit que l'on remet ici à l'archonte que le sort a désigné roi, le soin d'offrir les plus solennels des sacrifices antiques et surtout ceux que vos pères ont fondés. Cela est vrai. Il nous faut donc considérer à la fois et ces rois désignés par le sort et ces prêtres avec leurs serviteurs et une autre foule très nombreuse qui apparaît au grand jour maintenant que nous avons séparé tout ce qui précède. Quels sont ceux dont tu parles? Des êtres tout à fait étranges. Comment? Un composé de 1000 espèces diverses, du moins à ce qui me semble au premier coup d'œil. Beaucoup ressemblent à des lions, à des centaures et autres animaux pareils, beaucoup d'autres à des satyres et à des animaux faibles et pleins de ruses. D'ailleurs, ils changent promptement entre eux de forme et de qualité. En un mot, Socrate, je crois enfin avoir aperçu nos gens. Parle, car il paraît que tu vois là quelque chose d'étrange. Oui, car tout ce qu'on ignore est étrange, et c'est ce que j'ai éprouvé moi-même tout à l'heure. Je suis tout à coup resté incertain en voyant le cœur qui traite des affaires publiques. Quel cœur? Le plus grand magicien de tous les sophistes, le plus habile dans cet art et qu'il nous faut distinguer, quoique la chose soit fort difficile, du vrai politique et du vrai roi, si nous voulons discerner nettement ce que nous cherchons. Vraiment, il n'y faut pas renoncer. Non, sans doute. Dis-moi donc. Quoi? La monarchie n'est-elle pas une des formes de gouvernement politique? Oui. Et d'après la monarchie, on peut nommer, je crois, la domination du petit nombre. Assurément. La troisième forme de gouvernement n'est-elle pas le commandement de la multitude qui a reçu le nom de démocratie? Oui. Ces trois formes n'en font-elles pas cinq, en quelque sorte, puisque deux d'entre elles se créent d'elles-mêmes d'autres noms? Quels noms? en considérant ces gouvernements sous le rapport de la violence ou du libre consentement, de la pauvreté ou de la richesse, des lois ou de la licence, on divise en deux chacune des deux divisions. D'abord, en considérant la monarchie comme un genre composé de deux espèces, on l'appelle de deux noms différents, tyrannie et royauté. Qui le niera ? De même, tout gouvernement où domine le petit nombre s'appelle soit aristocratie, soit oligarchie. Sans doute, quant à la démocratie, que la domination de la multitude sur ceux qui possèdent soit forcée ou librement acceptée, et qu'elle observe ou non les lois exactement, on n'a jamais eu coutume de changer rien à ce nom. Il est vrai